Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit rêvée de Daniel Defer. Bonsoir Daniel Defer.
Bonsoir Alban Penaranda.
Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin. Au fil des heures de votre nuit rêvée, les auditeurs et auditrices vont entendre les émissions que vous avez choisies pour eux. Dans un premier temps, nous écouterons une évocation de Marcel Proust, Michel Foucault à propos du crime et du criminel, Christian Enjambé sur son engagement à la gauche prolétarienne et Claude Friou sur les débats de l'université de Vincennes. Puis au programme de la seconde partie, l'histoire de l'homosexualité au XXe siècle, les soignants et le sida, Michel Foucault à propos de la volonté de savoir, Daniel Arras sur le tableau de Velázquez, Les Ménines et le texte que lui a consacré Michel Foucault, et enfin une émission sur le scandale du Sacre du Printemps de Stravinsky. Daniel Defer, comment en peu de mots vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas ? On dira que vous êtes un universitaire, philosophe de formation, sociologue de profession. On dira que vous avez été le compagnon de Michel Foucault, qu'avec lui vous avez partagé 20 ans d'existence et d'engagement commun, qu'à sa mort en 1984, vous avez fondé AIDE, la première association à engager en France la lutte contre le sida. On dira que votre vie est jalonnée de combats politiques, sur lesquels nous reviendrons en écoutant les archives que vous avez choisies pour le programme de cette nuit. Daniel Defer, vous avez l'âge d'avoir des souvenirs qui appartiennent à l'histoire, à notre histoire, à l'histoire d'avant la plupart d'entre nous aujourd'hui. Souvenirs d'enfance avec encore les traces, les blessures de la Première Guerre, souvenirs de la Deuxième Guerre, de l'occupation, de la libération. Rien ne me bouleverse plus qu'une libération, dites-vous. Si l'on admet que c'est dans notre enfance que se forge l'essentiel de ce que nous deviendrons ensuite, qu'est-ce qui, dans votre enfance, a pu faire de vous un homme d'engagement politique, un homme auquel s'est imposé, à plusieurs moments de sa vie, une obligation de parler et d'agir, Daniel Defer ?
Écoutez, je ne sais pas. C'est la question qu'ont posé mes intervieweurs dans le livre de souvenirs que vous avez évoqué. Mais une chose, quand j'étais enfant et que je refusais de manger, ce qui m'arrivait assez souvent sans que je sois anorexique, ma mère disait « pense à tous ces millions de Chinois qui n'ont rien à manger ». Et alors ça me révoltait. Je n'ai aucune raison de manger si les autres meurent de faim. Et donc c'était pour moi un refus supplémentaire d'absorber quoi que ce soit. Donc c'est peut-être un de mes plus vieux souvenirs de révolte contre l'injustice. Et je pense que mes engagements ont toujours été liés à des questions d'injustice, beaucoup plus qu'à un projet politique. Je n'ai pas vraiment appartenu à un parti politique, et quand mes amis ont baptisé moi-même, c'est moi qui m'a, c'est le livre de souvenirs, Une vie politique, je voulais parler de la vie politique que l'on peut avoir hors des partis politiques. C'est devenu aujourd'hui un élément très important, puisqu'une partie du parti au pouvoir vient de la société civile, comme on dit, et bon voilà, c'était un peu, je voulais mettre en avant toutes ces expériences qui vous politisent hors de la sphère professionnellement politique.
Et peut-on dire que la personnalité et l'histoire de votre mère ont été déterminantes dans la manière dont s'est écrite votre propre histoire ?
Probablement. Probablement, ma mère était d'assistance publique, d'origine slave. J'ai jamais fini de chercher les archives, elles n'y tenaient pas tellement. Elles sont dans les hôpitaux. Et elle a été déposée à l'assistance publique. Alors ça, c'est très curieux. Et je l'ai appris récemment, puisqu'elles sont vivantes, elles ne voulaient rien que je sache que pour elle. Et cherchant quelle était l'origine, puisque elle croyait que sa mère était morte à l'hôpital de la Riboisière, et qu'elle avait été déposée à l'assistance publique ou par sa mère ou par le... Et puis j'ai découvert que c'était un militant, Émile Kahn, très connu pour être un des grands bagarreurs de l'affaire Dreyfus, un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, qui, ayant été pris de pitié pour cette jeune immigrée, probablement russe ou ukrainienne, qui était sa voisine, avec un bébé, et c'était lui qui avait déposé ma mère à l'assistance publique. Heureusement que ma mère ne l'a jamais su, c'est que j'ai trouvé une lettre de sa mère écrite quelque temps après, un an ou deux après, venue d'Angleterre, où elle demandait sa fille, et on lui répond « Madame, vous avez abandonné votre enfant, vous n'avez droit à aucune information ni aucune mise en contact ». Mais cette sensibilité que ça crée, le fait qu'elle ait subi quand même l'antisémitisme qui régnait après l'affaire Dreyfus, c'était quand même très fort. Elle est née en 1907. Et ça m'a rendu, et elle aussi, sensible à toutes les discriminations. Si bien que la première fois que j'ai été, je crois, insulté, que quelqu'un, j'étais pratiquement enfant, je dois avoir 13 ans, 12 ans, on passe devant un café, je regarde les mecs qui étaient à table et au café, quelqu'un crie, une injure, vous voyez bien ce que ça peut être. Et ma mère me serre le bras très fort contre elle. Et ça a été pour moi une espèce de garantie que jamais elle me laisserait tomber. Je crois que c'était la force que j'ai eue toujours dans ma vie, d'avoir la certitude de cette affection indéfectible, quels que soient les événements suivants.
Vous dites avoir été élevé dans une grande liberté, Daniel Defer.
Oui, oui, oui. Parce que ma mère avait tellement souffert de ce judaïsme dont elle ne savait rien, sauf que l'assistance publique qui respectait les religions, après la séparation de l'Église et de l'État, mentionnait confession hébraïque. Et donc, elle a été élevée hors de tout contexte religieux. Ben, lorsqu'il y avait une fête religieuse dans le village, on la cachait pour ne pas que le curé la voie. Donc, le premier problème qu'elle a eu quand elle a été un peu autonome à 17-18 ans, c'est de se convertir. Elle est devenue catholique et moi j'avais toujours pensé, elle ne faisait pas une forte pression sur nous, que c'était pour justement qu'on ne soit pas juif et que ce soit une protection. Et un jour je découvre qu'elle allait à la messe à l'hôpital de notre ville le matin à 6h30. Je lui dis mais pourquoi vas-tu à la messe si tôt? Et elle me répond cette phrase qui m'a beaucoup ému, c'est ma foi, je n'ai pas à vous l'imposer. Vous ferez ce que vous voudrez, mais ça, c'est ma foi. Donc, vous voyez, j'ai été élevé dans la liberté. Donc, sentiment d'injustice, sentiment de la liberté, bon, bah, ça crée quand même une sensibilité politique.
Daniel Defer, vous avez choisi d'ouvrir le programme de votre nuit rêvée avec Marcel Proust. Nous écouterons l'écrivain Louis Gauthier Vignal partager ses souvenirs de Marcel Proust dans une grande conférence de 1971. Quand et comment avez-vous rencontré l'œuvre de Proust?
Alors ça, c'est très curieux. Bon, des hasards, mon père était devenu tuberculeux. Mes parents se faisaient beaucoup de soucis sur la manière de continuer, c'était une famille nombreuse, continuer à financer mes études. Et quelqu'un m'a dit, mais l'école normale d'instituteur, c'est gratuit. Donc finalement, comme je tenais vraiment à continuer mes études, je passe le concours d'instituteur. Et là, dans ces écoles normales, je suis pas resté très longtemps, je me suis pas plu, je me suis sauvé. C'est une histoire assez rocambolesque, où Proust encore est intervenu. Et je suis assigné, comme tous les élèves, à des tâches matinales. Les uns balayaient le jardin ou entretenaient le jardin. Et il y avait un surveillant gay, on disait pas le mot à l'époque, hein. J'étais pédé. Et ce surveillant, très cultivé d'ailleurs, c'était le cousin d'une écrivaine, il connaissait Vialat qui m'a fait découvrir, Primo Levi qui venait d'être traduit en français, donc il me fait découvrir tout ça, et il me donne comme tâche la responsabilité de la bibliothèque. Personne ne mettait jamais les pieds dans la bibliothèque, il s'agissait de l'épousseter, et je découvre de très belles reliures. Puis le temps retrouvé, c'est quand même un beau nom. Mon titre est J'ouvre, l'amour de Swann, comme ça, bon, le premier, forcément. Et je tombe sur cette phrase toute banale qui m'attend mondialement simple. Longtemps, je me suis couché de bonheur, et puis tout un récit, l'endormissement d'un enfant, ses angoisses, ses peurs. Un passage aussi très drôle où je crois qu'il raconte que, comme souvent, on a le corps qui reçoit des sensations, puis qui, ces sensations qui entrent dans le rêve, et alors ça cuit. Le gêne, et puis il a l'impression que c'est la cuisse d'Adam dont va sortir Ève. Et moi qui voulais être une fille, Et mon père n'aimait pas beaucoup cette idée que je désirais être une fille. Il était coiffeur et il avait l'habitude de me couper les cheveux très ras, alors que sans arrêt, quand ils étaient longs, je disais « Tu sens mes boucles ?» Et mon père, donc, me virilisait et ma mère me laissait la nuit me draper dans des têtes. La nuit, je faisais la fille, je dormais en fille. Et ma mère venait défaire mes ceintures, mais tout ce qui pouvait me serrer trop pour empêcher mon sommeil, mais ça ne l'inquiétait pas beaucoup. Donc la nuit pour moi, c'était déjà une nuit rêvée, au sens strict, c'était une vie rêvée. Et donc que Proust commence avec ses souvenirs d'enfance, la présence de la mère, le rêve, le mythe, tout ça, ça me subjugue. Et je me plonge dans la lecture de Proust. Et aux premières vacances scolaires, je reviens à la maison et je raconte à ma mère ma découverte de Proust. Et à ma grande surprise, bon, j'étais avancé assez, j'avais découvert le côté de Guermantes, tout ça. Et à ma grande surprise, ma mère dit « Oui, je connais tout ce monde-là. La sœur de, ou la belle-sœur de sa nourrice, qui était élevée dans une ferme du Morvan, la belle-sœur de sa nourrice était employée, je crois, chez les Caramanchimet. J'ai des notes dans une maison de campagne, dans un château en Seine-et-Marne. Et chaque année, à la période des chasses, ils arrivaient avec des paniers de gibier, en voiture à cheval, avec beaucoup de tralala, parce qu'il venait quand même d'une grande maison, il voulait en avoir toutes les aises et les airs, et il racontait la vie des Caramanchimet, ou les Sagans, je crois que c'était les Caramanchimet. Et ma mère écoutait ça, naturellement, et quand moi, à 15 ans, je lui raconte que je découvre le côté diamant, elle me dit, mais oui, ça faisait partie de mes plaisirs d'enfance, on me racontait tout ça. Donc, je me suis replongé dans Proust. Et puis, un jour, j'étais encore à l'école normale, je devais faire un stage qu'on appelait des méthodes d'éducation acquise, il faut être moniteur quand il y a vacances. Et en sortant, à la fin de ce stage, je passe devant une librairie et je trouve un livre sur Proust, avec un portrait de Proust, ses moustaches, les traits très caractéristiques. Et tout ça était à pinceau, l'encre de Chine sans doute, enfin un peu genre tableau chinois. Et j'achète le livre à Dijon, et le libraire me dit, vous savez, l'auteur habite à Dijon, vous devriez lui demander une dédicace. C'était un monsieur Pierre Trard, professeur à l'université de Dijon. Je vais donc, pour la première fois de ma vie, je rencontre un universitaire de grand renom, bel appartement bourgeois, des tableaux partout, bon. Il me fait, ah, vous allez être instituteur, quel beau métier, ce que je ne voulais pas faire déjà, il me vexe. Enfin, il me donne une dédicace et je fais le pari. En sortant de chez moi, je dis, si j'ai une dédicace, je quitte l'école normale et je ne serai pas instituteur. Ce que j'ai fait, j'ai eu la dédicace, j'ai quitté, et au fond, tout mon destin s'est joué sur ce coup de dé. J'ai quitté l'école, ce qui a été très problématique, il a fallu des dossiers psychiatriques, il a fallu tout un ensemble de choses. Mais voilà, donc, le portrait de Proust a joué un rôle dans mon goût du jeu et de la rencontre et de l'aventure.
Daniel Defer, le programme se poursuivra avec Le crime et le criminel par Michel Foucault en 1976. Il s'agit du quatrième temps d'une série de 5 chemins de la connaissance proposés par Philippe Nemo, ayant pour titre « Punir ou guérir, justice et psychiatrie ». Vous rencontrez Michel Foucault en 1960. Quelle est la notoriété de Foucault à cette époque? Que représente-t-il dans le monde universitaire et au-delà? Et où en est-il de son œuvre à ce moment-là?
Quand je le rencontre en 1960, c'est très curieux, je suis conduit chez lui, je venais d'entrer à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, je m'étais fait coller rue d'Ulme, d'où est sorti Foucault, et j'étais bien sûr meurtri, c'était la deuxième fois que je me faisais coller à l'oral de la rue d'Ulme, et j'étais entré à Saint-Cloud, et le professeur de littérature que j'avais à Lyon, qui était un normalien remarquable, Robert Maussy, qui a fait ses études avec Foucault, à l'école normale, d'Ulme, me dit, tu ne devrais pas, on s'était assez rapprochés, tu devrais pas entrer à Saint-Cloud, tu devrais repasser le concours. D'ailleurs, le meilleur philosophe de sa génération rentre d'Allemagne, je vais t'emmener dîner chez lui. Il y avait également Roland Barthes, que ce même Robert Maussy avait fait connaître des années auparavant. à Foucault, dont je dîne. Foucault était donc présenté à moi comme le meilleur philosophe de sa génération. Je trouve un monsieur assez austère. Il rentrait d'Allemagne, il avait ce côté des universitaires allemands, vous voyez, un peu respectable, un peu guindé, même s'il était drôle et violent, même dans ses drôleries. Et c'est comme ça qu'il se fait la rencontre. Et en fait, il avait chez lui un étudiant allemand, remarquablement beau. Et la ma qualité de la relation qu'il y avait entre eux m'a beaucoup frappé, alors que je trouvais que ni Roland Barthes ni Robert Mosi n'avaient avec les jeunes gens, ils avaient un rapport de dragueur, mais pas un rapport de respect. Enfin, j'avais l'impression, longtemps j'ai opposé ces deux types de relations, comme Foucault c'était déjà San Francisco et Barthes et Mosi c'était encore Charlus. Bon. Et donc voilà, j'ai fait cette rencontre. C'était un jeune universitaire qui n'avait pas encore soutenu sa thèse, qui j'ai assisté à sa soutenance de thèse. Ça doit être mai 61. Et j'étais à côté de quelqu'un qui le détestait, qui l'a détesté toute sa vie, puisqu'il a écrit un livre après la mort de Foucault, extrêmement méchant sur lui, mais ils avaient été liés dans leur jeunesse. C'était Jean-Paul Aron, qui a été celui qui a rendu public d'une manière assez forte, violente, le fait qu'il était atteint du sida, quelques années après la mort de Foucault. Donc c'était avec lui, j'étais. Et pendant toute la soutenance, il ne faisait que des commentaires désobligeants, histoire de la folie, tu comprends bien ce que ça veut dire. Et c'était très désobligeant. Donc c'était pas Foucault, mais je découvrais. Bon, j'ai commencé à vivre avec lui un peu après. J'ai été stupéfait comme tout le monde par son intelligence complètement créatrice à chaque moment. Mais le personnage mythique qu'il était devenu, je l'ai découvert beaucoup plus tardivement, si vous voulez, vivant quotidiennement. Et c'était un homme très modeste, d'une intelligence foudroyante, mais d'une modestie très réelle, très sincère. En tout cas, qu'il faisait en sorte d'affirmer. Et je suis à San Francisco, où il a commencé à aller assez régulièrement, et on me propose un guide pour visiter les. Je m'intéresse à l'architecture, les maisons assez originales de San Francisco. Et ce guide me dit, comme ça, sans savoir qui j'étais vraiment, me dit oh, j'ai conduit Michel Foucault dans toutes ses rues. Alors, je ne savais pas que c'était une star. Tout le monde venait lui demander des autographes, et moi j'étais absolument sidéré. C'est-à-dire que la transformation internationale qui s'était faite du statut de Foucault, je l'avais vécue, je l'avais vue, mais l'idée, ici c'est une star, on l'accoste dans la rue, c'était vraiment une découverte d'un autre statut. Donc voilà un peu l'histoire d'une vie qui est médusé par l'intelligence et la création, mais qui n'en mesure pas l'impact.
Au milieu des années 60, Michel Foucault était véritablement un homme de radio. Il intervenait souvent sur France Culture. Foucault, c'était aussi une voix. Que dire de cette voix, Daniel Defer?
Oui, bon, moi, si vous voulez, c'est compliqué, c'est une voix qui m'émeut, que je ne peux pas écouter facilement. Quelquefois, à la fin de sa vie, elle était un petit peu nasillarde parce que bon, il y avait des problèmes de respiration. Mais c'est une voix un peu métallique, tranchée. Puis c'est toujours la luminosité des analyses, quoi. D'emblée, il vous pose les choses autrement que la majorité des gens.
La clarté de la pensée.
Clarté, non seulement la clarté, mais il déplace la manière qu'ont les autres de penser les mêmes choses. D'un seul coup, on les voit autrement et on ne peut plus revenir en arrière. Il a dégagé vraiment le paysage, il a remodelé autrement. Et j'ai trouvé dans l'introduction de la Pléiade, Frédéric Gros, qui a dirigé cette édition, a comme première phrase « Foucault n'a pas inventé une nouvelle philosophie, mais une nouvelle manière de faire de la philosophie ». Et je trouve que la remarque est très juste.
Michel Foucault avait-il le souci d'être entendu et compris par le plus grand nombre possible ?
Progressivement, oui. Alors c'est vrai que l'histoire de la folie, je dirais, on sent encore le cagneux, c'est-à-dire celui qui a préparé Normal Sup en cagne, où le langage est chargé. Tout. Mais progressivement, alors déjà dans Surveiller et punir, il souhaitait que ce livre soit lu et par les détenus et par les gardiens de prison, par les juges bien sûr, tous les gens qui avaient affaire. Mais précisément, quand il a appris que Surveiller et punir était lu par des détenus en prison, il était très content et il disait... bien sûr, moi, le livre était fait pour être lu par ces gens-là. Je suppose que le Capital était fait pour être élu par les ouvriers. C'était assez ironique, bien sûr. Et ces derniers livres sont encore plus lumineux, plus simples. Même les gens qui étaient habitués à son style étaient un peu déçus qu'il n'y ait plus d'éclat. Les recherches littéraires, c'est quand même un écrivain, mais tout s'effaçait progressivement au profit de la limpidité de la démonstration, que ce soit sur la pensée grecque, la pensée romaine ou la pensée chrétienne, puisque prochainement on publiera ces derniers textes sur les pères de l'Église et au début du christianisme, on va voir que c'est totalement dans la luminosité de la pure démonstration. Il n'y a plus d'effet de style.
Nous y reviendrons d'ailleurs dans la deuxième partie de cette nuit, Daniel Defer. Avant de rencontrer Michel Foucault et de partager avec lui des combats politiques, quelle avait été votre propre expérience politique? Quels avaient été vos engagements?
Alors, vous savez, je suis de la génération de la guerre d'Algérie. Ah, j'ai 80 ans. J'étais au lycée du Parc à Lyon, en Cagne, qui était assez réac. J'avais des professeurs qui avaient été royalistes, beaucoup avaient appartenu à l'Action française. Ensuite, ça avait évolué, certains ont été résistants, fondateurs de la démocratie chrétienne. Mais enfin, c'était quand même une Cagne de droite. Je vous disais tout à l'heure que moi, la justice, ça a compté dès ma plus petite enfance. Et donc, il fallait prendre une mutuelle d'étudiants. Il y avait vraiment une mutuelle réac. Et il y avait l'UNEF qui avait sa mutuelle, l'AMNEF, je crois que ça s'appelait l'AMNEF. Donc, j'adhère à l'AMNEF. Et du coup, on me demande de faire le service d'ordre lors de l'avenue de Mendès-France. Et Mendès-France était un personnage qui m'impressionnait. Donc je me retrouve faire le service d'ordre pour Mendès-France. On est attaqué par des étudiants d'extrême droite dans la fac de Lyon. On court dans les escaliers, se réfugie, je ne sais à quel étage. Je me retrouve pratiquement avec Mendès-France, tous les deux coincés dans pratiquement un fond de grenier, un corridor. Et on passe là une bonne demi-heure à discuter. Et donc là, ça a été quand même un choc. La première fois, j'ai rencontré un homme politique de cette envergure, quand même des colonisés, la Chine, la Tunisie. Bon, j'avais de l'admiration pour lui. Bon, donc on a longuement parlé et j'ai failli entrer au PSU. L'année d'après ou deux ans après, je me trouve à Saint-Cloud, je me présente aux élections syndicales et je suis élu représentant de mon école à l'UNEF et là au cartel des écoles normales supérieures qui était une section de l'UNEF, le syndicat des étudiants, qui était très très impliqué, très actif dans la guerre d'Algérie, qui était pour la négociation tout de suite avec le FLN, pour la paix et l'arrêt de la guerre. Et là, je rencontre une jeune femme qui était au PSU, très brillante, qui est toujours une de mes meilleures amies, qui s'appelait Rédith Esten, j'ai plaisir à nommer son nom. Quelques années après, elle a épousé un garçon qui a fait parler de lui, qui s'appelait Alain Gesmar, qui était donc un des porte-parole de mai 68 et de la gauche prolétarienne. À l'époque, il était président du syndicat ou secrétaire général du syndicat général de l'enseignement supérieur. Et c'est avec elle que je me suis politisé pendant la guerre d'Algérie. J'étais très lié au mouvement. Je faisais les affiches, les tracts, je mobilisais mes copains à Saint-Cloud. Voilà. C'était la guerre d'Algérie, le début. J'ai même failli enseigner dans le bidonville. Nanterre, malheureusement, bon, pour mon expérience, la richesse de mon expérience, au bout de la deuxième leçon, je crois, les femmes de la cité m'ont dit « Non, non, tu entres pas, pas aujourd'hui. » J'étais en train de trucider un membre du MNA qui était l'autre parti politique algérien en guerre à Paris, en particulier avec le FLN. Bon. Mais bon, vous voyez, j'ai approché l'implication assez tôt.
Et comment avez-vous vécu mai 68, Daniel Defer ?
Alors, j'étais vieux déjà. C'est une affaire de jeunes. Moi, j'avais 30 ans, pas loin, oui. J'étais à la Fondation Thiers et je suis allé chercher une de mes amies qui passait la grègue à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et là, je découvre le quartier latin bouclé. Et là, c'est encore... devant l'espèce de violence politique affichée, j'ai un sentiment de révolte. Et je m'engage uniquement par colère contre un quartier bouclé par les CRS. En plus, autant pendant la guerre d'Algérie, c'était encore des sergents de ville avec des bâtons et mal protégés. Tandis que là, ils étaient vraiment protégés comme une armée. Et c'est ça, ça a été pour moi une violence insupportable. Et alors, j'ai suivi le mouvement. J'ai suivi le mouvement. Je ne comprenais pas grand-chose au slogan parce qu'il y avait plein de mouvements trotskistes auxquels je ne comprenais rigoureusement rien. Toujours eu du mal à comprendre les différences entre les différentes sectes trotskistes. Et voilà, donc j'ai fait toutes les manifs par sympathie, par émotion. C'était un peu ma génération, mais c'était pas la révolution pour moi. C'était quand même la liberté. Et je crois, je n'ai jamais pris mai 68 comme une révolution avortée, mais quand même un grand mouvement de mise en question de toutes les formes d'autorité, hein, que ce soit les autorités patronales d'abord dans les usines, les autorités universitaires les premières, parce que les profs ont été quand même extrêmement maltraités, et l'université elle-même qui s'en est mal remise à mon sens. Et puis, après, ça a été des relations de sexe entre hommes et femmes, ça a commencé à être mis en question, et un peu même les relations de sexualité, puisque j'ai assisté à la, et c'était très drôle, à la Sorbonne, à l'émergence d'un mouvement qui était conduit par un garçon qui était en cagne avec mon frère, qui arrivait avec une pancarte « Comité pédérastique d'action révolutionnaire ». Alors là, autant j'étais pour la liberté, la libération, autant j'étais un peu embarrassé. Je dis comment ça fait vraiment partie de l'enjeu. Enfin bon, je suis allé assister à l'amphi et on a parlé de Reich, de Marcuse qu'on avait déjà invité moi dans mon école à Saint-Cloud, mais ça m'a pas passionné. Mais enfin, si vous voulez, c'était le mouvement de toutes les libertés. Pas des libérations, mais des libertés. On soulevait le couvercle partout. C'était devenu un peu intolérable. Et donc voilà, pour moi, c'est pas du tout une révolution ratée. Je sais que cette année, on va officiellement commémorer cet événement. D'ailleurs, mon ami Philippe Artière, qui est un de ceux qui m'a interviewé pour faire ce livre et qui est un excellent historien, est parmi les gens qui préparent la mise en scène de l'archive de cette époque, qui les recherche, ces archives. Que ce soit l'État qui honore la contestation du pouvoir, ça me surprend un peu, ça me paraît un peu déplacé. Ou alors de la récup, mais j'aime pas les récup.
Daniel Defer, c'est avec Christian Jambé que se poursuivra votre programme. Christian Jambé, philosophe et islamologue, grand spécialiste de l'Iran et du monde chiite, fut dans sa jeunesse l'un des dirigeants de la gauche prolétarienne. En 1997, dans le premier volet de son Avoir nu au micro de Michel Cazenave, il revenait sur cet engagement politique. Vous-même, Daniel Defer, avez appartenu à cette gauche prolétarienne. Avec le recul, qu'est-ce qui vous avait séduit dans cette version du maoïsme ? Était-ce son principe d'agitation et de révélation permanente dont parle Jambé dans l'archive ?
Agitation, je ne sais pas. Révélation permanente, probablement, mais ça on sent déjà l'herméneute du schisme. Mais moi, ce qui m'avait séduit dans la gauche prolétarienne, c'était pas tellement les thèses maoïstes, c'était quand même la rupture avec l'Union soviétique et le communisme tel que je le connaissais avec toutes ces formes de terreur... Japon, la Hongrie, en Pologne, en URSS, enfin véritablement, et j'avais vraiment une allergie au Parti communiste. Donc ce que je lisais de la révolution prolétarienne était assez séduisant. Après, j'ai mieux compris que c'était très souvent calqué sur les formes du stalinisme autrement, mais bon. Et donc je me suis engagé surtout parce que la gauche prolétarienne, c'était une organisation qui nous mettait vraiment en contact, ce que j'avais désiré faire très longtemps, je vous avais dit quand j'avais été dans le bidonville de Nanterre, avec les fractions de la population les plus démunies économiquement, les plus en colère politiquement, que ce soit des fractions ouvrières qui n'étaient pas reconnues dans l'action des syndicats, que ce soit des fractions de jeunes, il y avait quand même déjà beaucoup de gens jeunes qui étaient mis en prison pour des usages de haschich, c'était quand même assez scandaleux. On en faisait des délinquants à partir d'un usage modeste d'herbe. Je rencontrais des petits paysans, quelquefois grand paysan, parce que j'ai rencontré Lambert, qui était un des formateurs de José Bové, et qui était un des leaders du monde paysan, qui était en train de s'endetter avec la mécanisation de l'agriculture. Hein. Il y avait une grande transformation de l'agriculture. Enfin, je veux dire, sous De Gaulle, il y a quand même une grande transformation, une grande émigration des campagnes vers les villes. Donc, il y avait plein de secteurs de la population avec lesquels la gauche prolétarienne était en contact, des ouvriers en colère par rapport à la politique syndicale, des immigrés mal intégrés dans les syndicats et dans la société et dans l'économie, des jeunes emprisonnés ou soumis à la police dans les cités. Donc il y avait quand même des tas de secteurs de population avec lesquels seule la gauche prolétarienne était en contact. Donc voilà pourquoi moi j'ai eu une vraie satisfaction à m'engager avec mes camarades, et je ne renie rien de cette période-là. Alors bien sûr, on a appris sur le maïsme des choses différentes, après coup, mais c'était pas ça pour nous, c'était d'ailleurs un marxisme non-léniniste, nous n'étions pas polarisés par une organisation en partie, nous voulions vraiment inspirer des mouvements de masse, et c'est ça qui m'a engagé.
Et d'ailleurs, c'est indirectement par la gauche prolétarienne que vous avez été conduit à créer avec Michel Foucault le GIP, donc le groupe d'information sur les prisons en 71. Comment est né le GIP ?
Alors, mes camarades, je suis entré à la gauche prolétarienne lorsqu'elle a été interdite. Donc, à partir du moment où elle était interdite, tous ceux qui militaient pouvaient être arrêtés pour reconstitution de ligue dissoute. On vendait le journal dans la rue, on était arrêtés. Enfin, il y avait à peu près 200 personnes en prison à ce moment-là. Et la gauche prolétarienne avait créé une petite cellule qui s'occupait des prisonniers pour faire, selon la grande tradition, transformer leur procès en procès politique. Et on m'a engagé, j'étais universitaire, on m'a donné plutôt des fonctions de m'occuper de préparer les procès, de rencontrer des avocats. C'est là que j'ai fait la connaissance d'Henri Leclerc, qui quand même a des avocats les plus formidables qu'on ait en France, et pour qui j'ai une admiration immense. Et je me suis occupé des procès politiques. Et puis, la première grève de la faim, mes camarades ont fait une grève de la faim pour avoir un statut de prisonnier politique, ça n'a pas marché, ils ont recommencé, et à ce moment-là, on a décidé de mobiliser la société civile. Et moi, je propose un peu à la veuille, si on demandait à Foucault d'animer une commission d'enquête sur les prisons. Ah, mes camarades, ils sont formidables. Puis moi, je me dis, comment je vais demander ça à Foucault, qui est un homme d'études, qui passe son temps dans les bibliothèques, qui n'aime pas tellement être importuné. Je n'ose pas lui demander, mais mes camarades font pression, ils vont le voir, et finalement, il dit, mais c'est dans le droit fil de l'histoire de la folie, et il anime prodigieusement ce. Et d'une commission d'enquête, il fait véritablement une enquête, on fait des questionnaires, qu'on fait entrer clandestinement dans les prisons, et pendant 2 ans, on a été extrêmement actifs avec quelques centaines de militants. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu 32 révoltes dans les prisons entre 71 et 72. Il y a eu 2 prisons mises à sac, l'une à Nancy et deux autres à Toul, une de jeune et une d'adulte. Et comme m'avait dit l'aumônier de la prison de Toul, ça a été le mai 68 des prisons, c'est-à-dire que les détenus sont restés toute la nuit dans la cour de la prison à débattre, comme à la Sorbonne 2 ans plus tôt, ou 4 ans plus tôt. C'est-à-dire, on voit la lenteur de la réception de ces modes d'action nouveaux, et c'était la première fois que, par notre enquête, les détenus dits de droit commun avaient la parole, puis on faisait des meetings à la mutualité et tout ça. Non, c'était un grand moment qui m'a inspiré. Bah, après, quand j'ai été confronté au SIDA, ça a quand même été mon point de référence.
Chaque année est rendu un rapport par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire les prisons, mais aussi les établissements de santé mentale. Et d'année en année, le rapport est de plus en plus catastrophiste. Comment expliquer, près d'un demi-siècle après le groupe d'information sur les prisons, qu'on en soit encore là? Et est-ce qu'il n'y a pas de quoi désespérer, Daniel Defer?
Ah, écoutez, les prisons, Foucault avait constaté... Bon, les prisons, c'est une création de la fin du XVIIIe siècle, hein, début du XIXe siècle. C'est-à-dire, on en discutait déjà sous Louis XVI, mais ça se met en place après la Révolution. Et je crois que c'est dès, bon, je sais plus si c'est 26 ou 32, il y a un rapport qui est fait et on voit l'échec des prisons. C'est-à-dire qu'on voit bien que, comment on mesure la réussite des prisons? Par la réinsertion des gens qu'on y a mis. Or, cette réinsertion ne se fait pas tellement, et on mesure plutôt la récidive. Donc, très tôt, on se rend compte que ça ne marche pas. Et c'est là que Foucault fait son livre assez étonnant, « Surveiller et punir », où il montre que, finalement, ce qui se passe, ce n'est pas... la réinsertion des gens inculpés, emprisonnés, c'est au contraire la création d'une population qu'on contrôle et qu'on marginalise. Et finalement, on cantonne toutes les illégalistes et tous les contrôles illégalistes dans des catégories de population. Mais finalement, la récidive, on la produit presque par la mise en contact. Donc, on voit périodiquement les mêmes rapports. Dans « Surveiller et punir », Foucault montre que tout de suite, on constate l'échec des prisons. Et depuis, ça ne cesse d'être répété périodiquement parce qu'on n'a rien changé.
Daniel Defer, la première partie de cette nuit se terminera avec les 20 ans de l'Université de Vincennes, une série proposée par Michel Chouchan en 1989. Pour saluer cet anniversaire, Claude Frioux était l'invité de la première émission. Claude Frioux avait été pendant 11 ans le président de l'Université de Vincennes, où vous avez fait l'essentiel de votre carrière d'enseignant. Vous qui dites ne pas être nostalgique, pourquoi avoir voulu revenir sur l'histoire de l'Université de Vincennes?
C'est une grande histoire, quand même. Ça a été un grand moment. D'abord, c'est une université expérimentale qui est créée juste après mai 68 par Edgar Faure. Et c'est très curieux d'ailleurs, Edgar Faure confie à un certain nombre d'universitaires, dont Hélène Cixous, à un projet, enfin qu'ils le façonnent eux-mêmes, je crois, et qu'ils ont beaucoup de mal à implanter, à attirer des universitaires. Et après mai 68, donc, ils sont obligés de faire une alliance avec, mais ça je l'ai appris beaucoup plus tard, avec des syndicats enseignants alliés au Parti communiste. Donc c'est une expérience apparemment gauchiste, mais dès le départ, qui tient par un soutien un peu inattendu du Parti communiste. Claude Frioux fait partie des grandes figures. Je ne sais pas s'il est encore à ce moment-là au Parti communiste, peut-être. Il a été un président très très remarquable qui a su à la fois ménager les intérêts d'une université, de ses étudiants, la liberté que les gauchistes imposaient. Il a subi quelquefois, alors qu'il était un grand cardiaque, des enfermements de 48 heures dans son bureau, avec occupation des lieux et tout ça. Et il a su faire face à tout cela en défendant les disciplines. Je me rappelle, un jour, on avait inventé une séance C'était auprès de 10 ans d'existence de l'université. On avait fait les mardis de Vincennes où on faisait un peu le bilan de l'université. Alors moi, j'avais été invité à faire un topo en disant, c'est quand même très curieux dans notre université. C'était une université qui fonctionnait par unité de valeur, par semestre, par pluridisciplinarité. Un modèle relativement basé sur les universités américaines. Et je me disais, dans cette université sont apparus tous les thèmes modernes, par exemple le féminisme. On le voyait dans tous les cours de littérature. On étudiait les femmes écrivains ou les femmes héroïnes, mais que ce soit dans le département d'italien, de russe, d'allemand, tout ça. Mais il n'y avait pas d'études féministes. Il y avait des cours sur la transformation de la sexualité, mais il n'y avait pas de gender studies ou de sexual studies comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait tous les thèmes qui constituait la modernité était abordé dans les différentes disciplines, mais il n'y avait pas de création de disciplines nouvelles comme ça s'est fait aux États-Unis. Et j'avais fait le constat, parce que c'était très drôle, quand Hélène Cissous avait créé cette université, la presse, les universitaires l'accusaient d'introduire un modèle américain en France. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait venir dans cette université Foucault, Gilles Deleuze, Lyotard, Derrida n'était pas dans l'université, mais il était un des conseillers et amis d'Hélène Cissous. Donc elle a fait venir tous ceux qui ont rénové l'université américaine, alors qu'on l'accusait d'américaniser l'université française. C'est tout le contraire qui s'est fait. La France résistait à sa modernité pendant que l'Amérique s'imprégnait de toute cette pensée qui se formulait en particulier à Vincennes. Donc Vincennes était non seulement innovant dans la pédagogie en France, mais il a été porteur mondialement de recherches qui ont rénové les pratiques. Enfin, je veux dire que Deleuze, Lyotard, Foucault, Derrida sont étudiés dans toutes les universités du monde. Moi, je suis sans arrêt sollicité par des Chinois qui me disent, bon, on a d'abord bien sûr fait nos études sur un modèle soviétique, puis après sur un modèle américain, maintenant c'est Foucault et Bourdieu qui nous inspirent. Bon, et un peu mondialement, c'est pareil. Et en France, tout ce qui était à l'extérieur de Vincennes se repliait sur soi, sur son précieux soi, un cours sur Durkheim, tout ce que j'ai fait moi-même. Et c'est vrai que on a eu à la fois à Vincennes la production d'une modernité et tout autour une espèce de ceinture de protection contre la modernité française. Et je suis pas sûr que cette ceinture soit complètement brisée. Le jour où les universitaires français sont intéressés à Foucault, quelqu'un m'a dit oui, c'est la seule condition pour qu'il soit invité à l'étranger.
Merci Daniel Defer. Nous allons écouter les archives de la première partie de votre Nuit rêvée. Dans un instant, Marcel Proust, souvenir retrouvé par Louis Gauthier Vignal dans une grande conférence de 1971. Le crime et le criminel par Michel Foucault, quatrième temps de la série Punir ou guérir, justice et psychiatrie proposée par Philippe Nemo dans Les chemins de la connaissance en 1976. Le premier temps de la voix nue de Christian Jambé au micro de Michel Cazenave en 1997. Et enfin, les 20 ans de l'université de Vincennes avec Claude Frioux, premier temps de la série de 4 proposée par Michel Chouchan en 1989. Nous nous retrouverons dans 2 heures pour parler de la suite de votre programme. À tout à l'heure, Daniel Defer.
À tout à l'heure, Alban Penaranda. Merci.